Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
Beaucoup d'enjeux qui sont liés au marché du travail. On va en parler tout de suite avec le ministre du Travail, Jean Boulet. Monsieur Boulet, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Dumont. Comment allez-vous?
Très bien. Ce matin, à l'Assemblée nationale, un débat quand même intéressant qui vous a été amené sur est-ce que le gouvernement, dans sa façon d'octroyer les contrats, devrait forcer les employeurs de la construction à intégrer plus de femmes en donnant des contrats à des entreprises qui amènent des femmes sur le chantier. Bon, vous avez laissé la porte ouverte. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pensable?
Ben, c'est ce qu'on est en train d'analyser, M. Dumont. Hein? Puis c'est certain qu'il faut prioriser l'intégration des femmes dans l'industrie de la construction. On a des besoins énormes, vous le savez, dans les missions essentielles de l'État, c'est les logements, les projets industriels, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux. Fait que oui, on a déjà en place un programme d'accès à l'égalité pour les femmes. On a triplé le nombre de femmes dans les dernières années. On est rendu qu'à 3,8, mais dans certains métiers, charpenterie, menuiserie, ferblanterie, électricité, peinture, il y a beaucoup plus de femmes qu'avant. Maintenant, imposer des quotas, moi, je pense que c'est un des moyens, mais il faut voir la faisabilité et la compatibilité avec des accords de libre-échange aussi là, en matière internationale. Il faut s'assurer d'aller de l'avant, mais on respecte le même objectif.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous le dites, est-ce que les femmes prennent plus de place dans la construction, mais ça reste des petits nombres. Je comprends que les municipalités, je comprends que les centres de services scolaires, quand ils veulent faire des travaux, rénovation, construction, des fois, là, ces années-ci, il y a tellement peu d'entreprises, il y a tellement d'ouvrages qu'on a peu de soumissionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de dire, mais là, l'entreprise qui n'a pas de femme dans sa main-d'œuvre pourra plus soumissionner, dans certains cas, d'avoir encore moins de soumissionnaires ou plus du tout de soumissionnaires et d'être pas plus avancé?
Vous avez totalement raison. Ça pourrait avoir cet effet pervers-là de diminuer le nombre de soumissionnaires qui ne sont pas capables de respecter des quotas. Donc, évidemment, c'est une formule qui est éclatante. Ceci dit, on a le même objectif d'intégrer plus de femmes, mais il faut le faire de manière raisonnée puis compatible avec les accords, avec nos lois. Oui.
Dans vos cours, là, les cours accélérés que le gouvernement a annoncés où les gens sont payés pour pendant qu'ils étudient là, les métiers de la construction, est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a, par exemple, un pourcentage plus intéressant de femmes qui se sont inscrites?
C'est fascinant, M. Dumont. Je suis allé dans beaucoup de centres de formation professionnelle. Cet après-midi, j'étais à l'École des métiers et des occupations de la construction à Québec. C'est l'école, la deuxième ou la plus importante au Québec. Puis il y a des femmes en ferblanterie. On a accru la capacité d'accueil en électricité. Il y a beaucoup de femmes. Il y a une cohorte qui est partie ici à Trois-Rivières. Il y a 11 filles puis 11 gars. Donc, on sent que la formation, c'est une porte ouverte, c'est une nouvelle avenue pour intégrer des femmes. Je le vois dans tous les parcours. Puis en charpenterie, menuiserie, il y en a beaucoup. Et à l'école de métier à laquelle je réfère, où j'étais cet après-midi, il y a 13 % de filles. Donc, on a triplé le nombre de femmes dans les trois dernières années. Faut continuer d'aller de l'avant et intégrer aussi des membres issus de la diversité au Québec. Là.
Ouais. Aujourd'hui, vous avez fait une annonce là, justement là, en lien avec ces gens qui sont en train d'être formés, qui sont payés pour être formés en accéléré parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour leur accès au marché du travail, pour que le passage entre leurs études et le marché du travail. Il y a des gens qui vous ont reproché de ne pas avoir mis un mécanisme qui les oblige, de dire si tu t'inscris au cours, si on te paye pour suivre le cours, tu es obligé d'aller travailler. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a des gens qui pensent que vous auriez dû mettre une espèce d'obligation, sinon ils remboursent leurs cours ou sont punis d'une manière.
Ça aurait été complètement inefficace au plan administratif. L'industrie de la construction, il y a beaucoup de chantiers. On passe d'un employeur à un autre. Ça n'aurait pas été facile de mettre ça en application, contrairement au PAB où il y a un employeur unique. Là, ici, on fait affaire avec plusieurs entrepreneurs différents. Ce qui est important, puisque j'ai annoncé cet après-midi, c'est un maillage, un accompagnement des étudiants et étudiantes avec la CCQ pour obtenir leur certificat compétences apprenti, les démêler dans le parcours parfois compliqué pour travailler en construction. L'OCQ, la PCHQ, toutes les associations d'employeurs vont collaborer avec les centres de formation professionnelle. Il va y avoir des visites. Il y a déjà beaucoup d'étudiants et étudiantes qui ont des offres d'emploi qu'ils ont d'ailleurs déjà acceptées. Moi, je pense que ça va avoir des retombées favorables. C'est un projet pilote. On va évaluer les retombées. Mais moi, je pense que ça passe par l'accompagnement puis des mesures concrètes pour permettre à ces personnes-là de venir travailler dans ce secteur-là.
Êtes-vous confiant qu'ils vont se retrouver sur les chantiers, ces gens formés? Parce qu'on a tout entendu, là, des exemples. Ça a l'air qu'il y en a qui faisaient ce cours-là pour aller, tu sais, pour avoir la compétence pour mieux rénover leur sous-sol, pour rénover leur propre Airbnb, qui n'ont pas partout l'intention d'aller travailler dans l'industrie. Êtes-vous confiant que ça va amener que ces gens-là, massivement, vont rentrer dans l'industrie?
Ben, l'objectif, c'est qu'ils intègrent l'industrie de la construction. Et l'incitatif financier provient de fonds publics. Si tu vas là en utilisant des fonds publics à des fins personnelles, il y a un problème sérieux. Ces personnes-là n'ont pas d'affaires.
Si vous l'encadrez pas, ouais, mais si vous ne l'encadrez pas, vous ne l'interdisez pas, ils en profitent?
Oui, on va les encadrer. Les fédérations de centres de services scolaires travaillent avec les associations patronales. Les entrepreneurs vont se déplacer sur place et on va avoir un accompagnement personnalisé qui va permettre à ces personnes-là de travailler dans l'industrie de la construction. Est-ce qu'il y a des cas qui peuvent nous échapper? Je suis pas naïf complètement. Il y en a peut-être, mais c'est pas le but. Puis on va s'assurer d'éviter et de permettre à la vaste majorité, sinon la totalité, de travailler. Le DG de la CQ à Québec, il me disait aujourd'hui, Monsieur le ministre, 100%, ils ont déjà des offres d'emploi. On a des besoins énormes. L'attestation d'études professionnelles, ça permet d'acquérir des compétences essentielles. Et moi, j'anticipe d'ailleurs que le taux de rétention va être nettement supérieur que les personnes qui intègrent la construction par la voie des bassins, c'est-à-dire sans formation.
Monsieur le ministre, je recevais plus tôt ici à Cube le porte-parole de l'Institut économique de Montréal qui est allé d'une étude sur l'industrie de la construction, le cloisonnement des métiers et en même temps sur votre projet de loi pour décloisonner. Et il dit, le ministre fait un pas dans la bonne direction, mais un petit pas, là, un pas de souris. L'Institut économique de Montréal dit, il faudrait aider. Les autres provinces ont entre 7 et 10 métiers. Au Québec, on en a 25. Il faudra en couper au moins la moitié, simplifier ça, permettre aux gens d'avoir des formations plus générales, de travailler dans plus de secteurs. Pour l'efficacité. Bon, d'abord, ils vont un peu dans le même sens que vous, mais ils disent qu'il faut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire?
Bien, c'est un équilibre. Hein? Il ne faut pas non plus permettre une polyvalence qui devient un bar ouvert, puis que là, que la qualité des travaux de construction soit affectée, ou que ce soit incompatible avec les compétences des travailleurs, ou que ça provoque des accidents de travail. Donc, le scénario de polyvalence qui est dans le projet de loi 51 nous permettrait, selon APECO, une étude commandée par l'Association de la construction du Québec, de sauver 10 % des heures travaillées. Si on se place en 2022, où il y a 210 millions d'heures qui ont été travaillées dans le secteur de la construction, c'est 21 millions d'heures qu'on sauve, qui nous permettrait de construire 25 ou 26 écoles primaires, selon des économistes. Donc, la polyvalence, oui, il faut faire un grand pas. C'est pas terminé, mais la polyvalence, faut pas non plus que ça épeure les travailleurs. Et aussi, les Québécois, Québécoises, il faut quand même avoir une certaine assurance que les travaux vont être bien faits. Mais c'est un grand pas en avant. Je pense que c'est une nouvelle culture qui va se développer. Et moi, je compte sur ce pilier-là de polyvalence. Évidemment, il y a la mobilité puis l'accès, l'inclusion. Mais la polyvalence est un élément central de ce projet de loi-là. Et moi, je suis fermement convaincu que ça va nous permettre de faire des gains. Pensez au délai qu'on sauve. Parce qu'on attend, on n'a pas un carreleur, on n'a pas un cimentier applicateur, on n'a pas un peintre. On va sauver des délais énormes. L'exemple de la porte, il est concret. La Corporation des entrepreneurs généraux du Québec est venue au Parlement en consultation particulière. Et il y a un entrepreneur qui l'a vécu. 7 métiers pour changer une porte dans une école.
Oui, c'est l'exemple. Ici, c'est l'exemple qui est devenu le classique, là, effectivement.
Oui, monsieur. C'était vécu.
Ouais. Hey, monsieur le ministre, je veux vous entendre. Vous qui voulez recruter des travailleurs aînés, là, vite, vite, vous pensez quoi de la publicité avec Ron Fournier de Rona ce matin, qui veut recruter des travailleurs aînés? Comme Ron, là, on sort de la retraite?
Ben, moi, je me plaisais à répéter que si on avait le même taux d'emploi chez les 60-69 ans qu'en Ontario, on pourrait ramener au travail 60-70 000 personnes. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est des personnes qui ont de la maturité, ils ont de l'expérience, puis il s'agit de bien les accommoder. Il y en a qui veulent travailler à temps partiel, il y en a qui veulent travailler de manière temporaire, mais ils répondraient à des besoins qui sont tellement importants pour beaucoup d'entreprises au Québec.
C'est le défi des employeurs de les accommoder. Monsieur le ministre, merci d'avoir été là. Au revoir.
Merci. Merci, Mario. À bientôt. Au revoir.